La Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous. Alors, faut-il vous rappeler que nous sommes toujours en compagnie des créatrices pionnières du cinéma au début du XXe siècle et que d'autre part, après l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud précédemment abordée, nous avons changé de pays pour nous retrouver la dernière émission de La Voix des Arts dans les brumes du Nord en pays scandinave. Et donc, pour commencer, nous étions au Danemark. Alors, c'était une autre ambiance, un autre climat, d'autres coutumes, une autre culture que celle, bien évidemment, rencontrée au Mexique ou en Argentine, mais où les femmes également sont actives, étaient actives, en tout cas, c'est vrai qu'elles l'étaient fin 19e, début 20e siècle, pour promouvoir le cinéma. Et nous y avons croisé la scénariste Harriet Block, la monteuse Edla Janssen, les réalisatrices Alice O. Frederiks et Astrid Enig Jensen, Anne-Lise Hoffmann, également journaliste, scénariste et productrice. Et nous nous sommes octroyé le droit de rêver un peu autour du conte d'Andersen, c'est-à-dire sur la petite sirène qui nous a accueillis dans le port de Copenhague, sculpture insolite joliment réalisée par le sculpteur Edvard Eriksen et que nous pouvons admirer sur son rocher dans une attitude à la fois alanguie et mélancolique. Et je n'oublie pas encore de mentionner l'écrivaine Karen Blixen, dont la littérature a inspiré les films Out of Africa et Le Festin de Babette. Alors aujourd'hui, nous sautons une frontière pour nous trouver en Suède, dans un pays où encore les femmes ont œuvré pour développer le 7e art et le cinéma, et que nous retrouvons à tous les postes clés déterminants. Or, comme l'envie de voyager me titille, surtout pour aller dans des pays que je ne connais pas, et la Suède en fait partie, c'est grâce à des lectures, des documentaires, que je pars à la découverte d'une terre, d'un peuple, de ses coutumes, de ses traditions, d'une culture au travers desquelles j'essaye de capter l'âme d'un pays. Ce qui n'est pas toujours si facile, mais malgré tout, je me suis quand même un petit peu promenée en laissant vagabonder mon imagination tout en recherchant nos pionnières du cinéma. Par exemple, en dehors de l'envie de me mêler à la vie locale et de découvrir tout ce que je viens d'énumérer, j'aurais bien aimé admirer en Suède les fameuses aurores boréales. Mais oui, les aurores boréales sont en Laponie suédoise. Ce sont, à ce qu'il paraît, de merveilles célestes issues d'un phénomène naturel qui offrent un spectacle magique avec ses couleurs dansantes dans les cieux. Et bien des légendes sont nées autour de ce phénomène. J'ai lu que les ancêtres des Suédois croyaient que c'était l'âme des morts qui se manifestait, ou pour les Vikings que c'était les Valkyries, ces déesses guerrières, escortant les âmes des guerriers morts au combat, qu'elles guidaient pour retrouver leur chef suprême, le dieu Odin. Comme vous le savez certainement aussi, la capitale de la Suède est Stockholm, appelée également la Venise du Nord, ça je l'ai appris. Pourquoi ? Vous pouvez le deviner, car elle est entourée d'eau. Et de plus, elle est reliée à 14 îles sur la mer Baltique. Et j'ai lu également que Stockholm était une ville culturelle plutôt riche, ne serait-ce que par l'importance de ses musées réputés. Alors tout cela, je ne connais pas, même si j'ai effleuré de près et aussi de loin, hélas, la vie artistique de ce pays riche en créateurs en tout genre. Et ce qui me revient en mémoire est beaucoup plus contemporain, c'est-à-dire que cela concerne ce groupe de 4 musiciens bien connus, surtout dans les années 70-80, puisqu'il s'agit du groupe ABBA, dont le succès fut international et que nous n'avons pas pu ignorer à ces époques, tant leur présence se manifestait sur les ondes et qui apparemment font un retour dans les années 2020. Alors ne nous égorons pas trop, revenons à nos créatrices cinéastes en faisant un saut dans le passé, pour aborder le tout début du XXe siècle, où je vois venir vers moi quelques dames que je vais vous présenter après nous plonger encore davantage dans l'ambiance suédoise grâce à la musique, paraît-il est traditionnelle, en tout cas bien agréable à écouter. Maintenant dans de bonnes dispositions avec la tranquillité et la concentration nécessaires pour aborder nos pionnières au cinéma qui se pressent quelque peu, je dirais, au portillon de la Voie des Arts, tant elles sont nombreuses. Apparemment, ce début de XXe siècle, ce sont des femmes de scène, c'est-à-dire des comédiennes de théâtre, chanteuses d'opéra et d'opérette ou danseuses qui se sont intéressées à ce nouveau médium qu'est le cinématographe, pour surtout immortaliser leurs prestations, en pensant certainement également à les diffuser plus largement. Or, parmi elles, j'en citerai deux qui ont travaillé et fait de la scène ensemble. Leur naissance date du XIXe siècle, et vous vous rendez compte que la première de ces dames est née quasiment à la moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire en 1866. Alors, elle se nomme Emma Messner, et la seconde, née en 1878, se nomme Rosa Grönberg. Et toutes deux ont formé un duo dans l'un des premiers films tournés en extérieur, car elles ont préparé, réalisé en 1909, un film intitulé « American Memories » qui relate leur tournée de concert aux États-Unis. Film qui a été largement diffusé, paraît-il, et elles ont été rejointes dans cette aventure par une chorégraphe nommée Joséphine Gulberg, qui, elle, aurait accommodé la chorégraphie sur la musique composée et arrangée par les deux artistes. Et par la suite, ces trois femmes, Joséphine Gulberg, Emma Messner et Rosa Grönberg, auraient tourné un autre film de danse intitulé « Skilda ». Alors, ce sont des scènes qui se suivent, où interviennent d'autres personnages qui évoluent dans des costumes divers. Or, ce que j'ai également pu comprendre concernant ces époques de balbutiement cinématographique au tout début du XXe siècle, où les fonctions n'étaient pas définies, bien chacun intervenait selon sa fantaisie. Et apparemment, la Suède était moins engagée que les États-Unis à aborder cet art avec plus d'investissement personnel, ou enfin plutôt de professionnalisme. Aussi celle de ces dames qui est vraiment considérée comme la première réalisatrice de films suédois, et Anna Hoffman-Udgren, dans le sens où il semblerait que le cinéma constituait pour elle un médium à part entière et non pas uniquement un moyen secondaire, aléatoire, de fixer un événement quelconque ou promotionnel. Or, j'ai relevé qu'elle aurait dit être toujours en recherche d'idées pour parfaire son travail, que ce soit pour trouver des lieux favorables pour les tournages ou optimiser sa façon de diriger les acteurs, si bien que cela lui a valu d'être remarquée et considérée comme quelqu'un de plutôt expérimenté vis-à-vis de cet art. Alors, il est dit également qu'elle avait une façon bien à elle de concevoir le tournage, de faire des adaptations, d'utiliser la technique, et de plus, elle se serait intéressée aux conditions de travail des différents intervenants en les comparant avec d'autres pays, comme par exemple la France, notamment la société cinématographique Pathé Frères. Alors, Anna Hoffman-Udgren est née en 1868 à Stockholm. Elle était également actrice, artiste de variété, puis devint metteur en scène jusqu'à devenir la première réalisatrice de films suédois. Et elle aurait tourné 6 films entre 1911 et 1912, dont 3 avec les scénarios écrits par son mari, et un intitulé « Les sœurs » avec une scénariste nommée Elin Wagner, dont je parlerai un peu plus loin. Alors, 2 films intitulés « Miss Julie » et « Le père » auraient été inspirés des pièces écrites par August Strindberg, un écrivain, auteur de théâtre suédois et également peintre. Et ces 6 films ont reçu une critique favorable de la presse suédoise. Mais seulement un est conservé, celui qui est intitulé « Le père », qui serait une pièce de théâtre filmée. Alors apparemment, elle a légué son goût du cinéma à sa fille, puisque celle-ci, nommée Alice Eklund, est devenue réalisatrice, mais elle n'aurait réalisé qu'un seul long métrage. Bon, ceci dit, elle est restée dans le milieu cinématographique et aussi au sein des arts de la scène en tant qu'actrice et directrice de théâtre. Et elle s'est d'ailleurs mariée avec le metteur en scène, acteur et directeur de théâtre nommé Ernst Eklund. Or, qui dit cinéma dit aussi, et pourquoi pas, compositrice de musique de film. Alors, j'ai cherché en Suède voir si je pouvais trouver une compositrice née au début du XXe siècle, et ben bingo, hein, j'ai trouvé. Il s'agit de Kay Gullman, née Gurli Bergström en 1905, et dont la spécialité était la composition de musique de swing, de valse et de chansons de marin, bon, ce qui était plus traditionnel en Suède, les chansons de marin. Et elle aurait composé la musique de plus d'une quarantaine de films entre 1937 et 1960. Et j'ai lu qu'elle était également chanteuse et actrice. D'ailleurs, nous allons écouter l'une de ses compositions. Or, je ne peux garantir qu'il s'agisse d'une musique qui a accompagné un film, mais au moins, vous aurez une petite idée du genre musical. Alors, le titre est suédois, certainement, hein, Fran Mig Tildig, je crois, que ça voudrait dire « De moi à toi », mais je ne suis pas sûre.
Varje litet hjärta har sin melodi, och i stilla stunder lyssnar vi det till. Fånga den ty annars flyr den lätt förbi, den är vävd av dröm och fantasi. Jag har en liten dröm och drömmer den just nu, och den drömmen det är du. Tonerna det bära tankar så kära som går från mig till dig. Så mycket har jag ej, men allt som jag kan ge, ger jag för att se dig le. Allt vad jag har drömt i längtan blev gömt i en sång från mig till dig. Varje gång jag spelar den tänker jag på våren som dansar in. Och du vet att våren är menad för två, så den är din och min. Och varje liten stund så lätt kan bli till vår, om vi blott varann förstår. Då i hjärtan unga vindarna sjunga en sång från mig till dig.
Alors, je vous avais dit précédemment que Anna Hoffmann-Udgren avait réalisé un film sur un scénario écrit par une autre femme. Celle-ci est une auteure, une journaliste également, doublée d'une leader féministe. Et elle se nomme Elin Wagner, qui elle est née en 1882. Alors elle débute sa vie de scénariste en 1911. Et elle aurait écrit le scénario et joué un rôle dans un film intitulé Un bout de crayon, réalisé en faveur de la création du fonds de bourse d'études pour les femmes journalistes, film qui eut un grand succès, d'autant plus que de nombreux journalistes de Stockholm, plus ou moins connus, y auraient participé. Et c'est là qu'elle est embauchée dans la foulée pour écrire le scénario de Les Sœurs, réalisé en 1912 par Anna Hoffmann-Udgren. Et ensuite, elle a écrit d'autres scénarios en 1927 pour un film intitulé Youth et en 1939, un autre intitulé Wanted. Et des films ont été réalisés sur la base de ses romans. Alors, Elin Wagner semble avoir une prédilection pour traiter du droit des femmes et de leur droit de vote, ainsi que pour aborder les questions sociales et environnementales. Aussi, par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur elle, j'ai bien pu comprendre qu'elle s'opposait à toute forme d'exploitation ou de domination. Et en travaillant comme journaliste, elle a également écrit sur des écrivains et peintres célèbres. Alors, son premier roman intitulé Nordtullsligan de 1908 sera adapté au cinéma. Et ce livre traite de la condition des femmes au travail. Alors, même chose pour un autre roman intitulé Penkaftet, bon, vous excuserez la prononciation suédoise, de 1910. Quant à celui intitulé Helga Wisbeck de 1913, il décrit une femme qui s'implique avec indépendance dans son travail de femme médecin. Alors le film intitulé Asa Anna de 1946 aurait été tourné d'après un roman de Elin Wagner, qui s'axerait également autour de questions féministes. Or, c'est bien quelqu'un qui s'engage en faveur de causes qu'elle estime justes. Son roman Le succès de la famille Jenner-Plog, écrit en 1916, reflète aussi ses idées pacifistes au moment de la Première Guerre mondiale. Elle s'investit également dans l'aide internationale pour les femmes, les enfants, et elle a créé, ou du moins a participé à la création de la Fédération internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et elle part aussi sur le terrain pour témoigner de la guerre et finalement ne s'arrêtera jamais de militer et de se battre pour de justes causes. Et elle lancera aussi un magazine pour femmes intitulé Tidevarvet, où il s'agit d'un hebdomadaire politico-culturel et elle en deviendra le rédacteur en chef de 1924 à 1927. Et à partir des années 30, elle publiera plusieurs romans, en partie autobiographiques, comme par exemple Transparent de 1937 et Secret de 1938. Et j'ai lu qu'elle aurait publié son livre le plus remarquable en 1941, qui est un essai qui traite déjà de l'environnement et de sa possible dégradation, voire destruction. On peut penser qu'elle fut en quelque sorte une lanceur d'alerte avant la lettre. Alors je suppose qu'elle avait accès à des informations plus fouillées, peut-être un regard plus affûté sur les tenants et aboutissants que le mot commun des mortels, apte à stimuler ses capacités d'anticipation et surtout elle avait une sensibilité développée. En tout cas, ce livre intitulé « Alarme cloque » que l'on peut traduire par « Le réveil » aura un retentissement 30 ans plus tard, en 1978. Alors, c'est un livre que je n'ai pas lu, donc je ne peux m'appuyer que sur mes recoupements pour en parler. Mais il semblerait qu'au travers de ce livre, elle faisait aussi un parallèle entre l'exploitation de la femme et l'exploitation de la nature. Certains auteurs qualifient même sa démarche d'écoféministe, qui est un terme apparu, paraît-il, relativement tardivement, dans les années 70. Bon, elle sera la seconde femme élue à l'Académie suédoise en 1944, après l'écriture d'une biographie en 1942 sur Selma Lagerlöf, une écrivaine suédoise dont j'avais parlé à La Voix des Arts, qui, elle, était née en 1858. Ce qui veut dire que cette Eline Wagner me semble une personnalité intéressante, très moderne, contemporaine, dans le sens où elle jette le regard que nous pouvons aussi avoir sur notre réalité et qu'elle propose un changement d'état d'esprit plus ouvert, plus juste, fraternel et responsable. Et c'est dire aussi qu'elle se tient au cœur des problèmes de société, qu'elle aborde les problèmes fondamentaux et qu'elle n'hésite pas à les pointer du doigt, ou plutôt du bout de sa plume, et qui, s'ils ne sont pas réglés, dégraderaient à terme l'état de nos sociétés humaines, avec des répercussions tout aussi dégradantes sur l'ensemble du vivant. Et il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous. Je rappelle quand même que cette femme est née en 1882. Alors vous faites le compte jusqu'à maintenant. Alors pour terminer cette émission, nous avons rencontré scénariste, réalisatrice, compositrice. Ce serait bien de compléter notre petit tour de Suède avec une critique de cinéma. Et bien justement, j'en ai une à vous proposer, née en 1880, qui se nomme Gerda ou Gerda Marcus, laquelle a été mise déjà au travail toute jeune, à l'âge de 14 ans, dans une papeterie, et a avoué être devenue journaliste par concours de circonstances. Alors en 1909, elle a 29 ans, elle deviendra secrétaire de rédaction d'un nouveau magazine de théâtre intitulé Talia, lancé par le metteur en scène Gustav Kolligne. Apparemment, cette expérience qui lui fera découvrir le théâtre, ce qui lui donnera aussi le goût de la scène et de l'image, certainement. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas, et vous avez déjà pu constater à cette époque que les artistes, créateurs, journalistes et écrivains le franchissaient plutôt allègrement. Alors elle deviendra par la suite correspondante dans un journal et c'est là qu'elle s'attachera particulièrement à valoriser la vie culturelle et notamment le cinéma. Ce qui fait qu'elle poursuivra dans cette voie en devenant, d'après ce que j'ai pu lire, l'une des principales critiques de cinéma dans la presse métropolitaine. Alors, elle était également une journaliste investie dans les causes sociales, puisqu'elle a mis sa plume au service des plus pauvres afin de sensibiliser ses lecteurs et surtout récolter des dons pour les personnes démunies. Et elle aurait d'ailleurs lancé une première grande collecte en 1913. Apparemment, c'était une personne engagée et qui agissait, elle aussi, là où elle le pouvait pour combler les manques ou pallier à des déséquilibres ou des défaillances, que ce soit pour les pauvres, les réfugiés lors de la guerre, les enfants également. Et elle utilisait à chaque fois sa plume, mais allait concrètement sur le terrain en organisant des conférences. Et grâce à elle et à ses collectes de fonds, tout ceci a pu se faire. Un sanatorium pour enfants a pu être créé, un hôpital a vu le jour. Et d'ailleurs, elle aurait été surnommée la grande mendiante pour sa capacité à récolter les fonds. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi qu'elle entretenait une correspondance avec sa collègue Eline Wagner. Alors, on peut vérifier sur pièce qu'elles étaient motivées par les mêmes causes sociales et qu'elles ont dû aussi se croiser dans le milieu cinématographique. Alors, avec toutes ces femmes, et notamment les Suédoises, j'ai de quoi avoir la tête qui tourne tellement j'en rencontre, non seulement dans le domaine du cinéma, et encore j'essaye de me cantonner aux pionnières, mais c'est également dans celui de la création en général. Encore, je ne suis pas allée voir dans d'autres secteurs, mais nous poursuivrons avec nos pionnières l'émission prochaine. Et en attendant, merci de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.